pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, c'est une idée généreuse et astucieuse. Pour accueillir décemment des réfugiés qui viennent d'acquérir leur statut en France, l'association d'architectes 14 propose d'installer des mini-maisons écolo dans les jardins de ceux qui sont prêts à les accueillir. Une initiative qui prend de l'ampleur, comme nous l'expliqueront nos invités dans la deuxième partie de l'émission.
C'est pas du vent sur RFI.
C'est un regard, un état d'esprit. Depuis 30 ans, il parcourt le monde pour capter en un clic la beauté de la nature. Bonjour Tony Crosetta.
Bonjour.
Vous êtes photographe animalier. Alors comment a débuté votre passion ?
Ben, un petit peu par hasard en fait, parce que j'avais des amis qui avaient un appareil photo et je lui dis tiens, t'as un appareil photo, fais-moi voir. Et en mettant l'œil au viseur, j'étais tout de suite subjugué par la visée réflexe et j'ai tout de suite eu envie de faire de la photo. Et il y a quand même quelque chose qui me trottait dans la tête, c'était l'Afrique depuis toujours. Hein. Je regardais Daktari, je regardais
les Tarzan,
les documentaires, évidemment, les Marlies de Lagrange et compagnie. Et un jour, j'ai commencé à voyager alors en Afrique de l'Ouest, hein, au Bénin, au Togo, au Burkina Faso. Et puis un jour, tout à fait par hasard, je suis entré dans un parc animalier et j'ai commencé à faire quelques clichés de très mauvaise qualité d'ailleurs.
C'était au parc
de W. Découvert le parc de W, il y en avait d'autres, il y en avait au Bénin, au Togo. Et puis, j'ai découvert toujours là l'alchimie de mes passions qui était le voyage, la photographie et le contact intime avec les animaux sauvages et la nature.
Et du coup, vous en avez fait votre métier ?
Alors, c'est venu petit à petit, évidemment, parce que j'avais d'autres... je faisais autre chose à l'époque. Hein, je dépannais les ascenseurs en banlieue parisienne. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à engranger les photos, à écrire des articles, à les proposer aux magazines. Et puis, je suis devenu photographe. Il a fallu à peu près 10 ans pour me constituer une photothèque et puis pour pouvoir commencer à gagner un peu d'argent avec mes reportages.
Alors, aujourd'hui, vous vivez au Kenya, dans la réserve du Maasai Mara. C'est une immense étendue de savane dans laquelle se côtoient de nombreux espèces. Comment est-ce que vous pouvez décrire aux auditeurs ce paysage et cette ambiance très particulière ?
Écoutez, c'est extraordinaire. Hein. C'est une savane blonde infinie. Hein. Alors le parc du Maasai Mara, c'est grand à l'échelle humaine, mais c'est tout petit à l'échelle écologique. Hein. Mais c'est quand même 1500 km² plus les aires de conservation limitrophes. Ce sont des aires où vivent encore des éleveurs Maasai. Donc il faut imaginer des plaines infinies, blondes quand il fait sec, quand il y a des sécheresses, qui est un peu le cas en ce moment, vertes quand il pleut. Et c'est parsemé de millions d'animaux, de millions d'herbivores. Et évidemment, qui dit herbivore dit prédateurs, les lions, les léopards, les guépards, les cervales, les caracals, et puis vous rajoutez les éléphants. Et voilà, c'est un espèce d'arche de Noé extraordinaire.
Alors Maasai Mara, c'est parce que c'est la terre des Maasai et la rivière Mara.
Alors Maasai Mara, évidemment, on est en pleine terre Maasai. Hein, les Maasai, ils vivent d'une part au Kenya et pour une autre part en Tanzanie. Hein, ça a été coupé par les états colonialistes il y a très longtemps, mais les Maasai évidemment vivent de part et d'autre. Et Maasai Mara, ça voulait dire à l'époque tacheté, c'était les étendues tachetées, hein, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup plus de ce qu'on appelle du bouge, donc de la végétation arbustive, qui protégeait d'ailleurs très bien les guépards, on va y revenir, et qui aujourd'hui a été brûlée suite à des décennies de brûlis sans contrôle. Et donc aujourd'hui c'est devenu en grande partie en tout cas, des étendues infinies d'herbe savane herbeuse qui est évidemment qui est profitable pour les herbivores. Et donc évidemment indirectement et vous directement par les carnivores.
Et c'est une réserve qui est extrêmement fréquentée par le tourisme.
Alors évidemment, alors ça c'est le parc animalier de tous les superlatifs. Hein, quand vous imaginez la grande faune africaine, tous les représentants sont présents dans le Maasai Mara.
Et donc on est sûr de les voir, donc du coup ça attire.
Pratiquement, on n'est jamais sûr de voir quoi que ce soit, mais évidemment c'est beaucoup plus facile là-bas que nulle part ailleurs.
Et alors ce tourisme n'a pas un impact que positif ?
Alors malheureusement non, il y a un équilibre à trouver entre le nécessaire tourisme qui est pourvoyeur d'emploi, d'argent, de développement, et évidemment la pression touristique aussi peut être un fléau pour des espèces fragiles, comme par exemple, encore une fois, pour le guépard, hein, qui est une espèce de star, puisqu'il y en a de moins en moins, donc on va absolument le voir. Et puis les véhicules qui viennent s'interposer pourraient, c'est arrivé, hein, écraser des petits guépards, ou empêcher les chats, c'est affaiblir un spécimen particulier.
Alors vous parlez du guépard, parce que depuis 4 ans, vous vous battez aux côtés de l'association Cheetah Forever pour la défense de ces animaux. Alors pourquoi cette espèce en particulier ?
Alors cette espèce en particulier, parce qu'elle est charismatique et elle m'a touché au cœur depuis que je travaille dans
parce qu'il est dur à prendre en photo à cause des rayures ou...
Non, pas du tout ça. Non, au contraire, c'est même plutôt facile, le guépard, parce que c'est un animal diurne, donc on le trouve relativement facilement. Non, c'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte au gré de mon travail sur place que le nombre de guépards diminuait. Je pense que j'étais un des précurseurs à le dire le premier.
Parce vous
que
l'avez vu à l'œil nu, quoi.
Ah, je l'ai vu sur 25 ans, j'ai vu. Et je me souviens d'une époque où j'ai commencé mon travail. J'étais un jeune photo-reporter dans les années 90. Je voyais une 14, 15 guépards dans une journée sans avoir spécialement les chercher. Aujourd'hui, quand on fait 14 jours de safari, qu'on voit 7 ou 8 spécimens différents, on peut déjà s'estimer heureux. Donc il y a une chute qui est dramatique, qui est drastique. Hein. Je ne lisais pas plus tard qu'il y a encore les chiffres d'il y a 20 ans. 20 ans, il y avait 15 000 guépards dans toute l'Afrique. Aujourd'hui, on compte 7000. Le nombre de guépards aujourd'hui adultes, parce qu'on ne comptabilise que les adultes et pas les petits, parce que les petits sont vulnérables et peuvent mourir très vite par la prédation, la destruction ou pour le trafic, il resterait entre 30 et 35, 38 guépards dans tout le Massai Mara aujourd'hui.
Ah ouais,
c'est dérisoire et il est vraiment temps, et ça fait longtemps que je tirais la sonnette d'alarme auprès des autorités. Personne n'avait conscience vraiment de ça. D'ailleurs, le grand public, je crois, ne le sait pas vraiment.
Mais vous dites plus de 90% des jeunes sont tués, c'est énorme.
C'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques, ce sont les observateurs. Et je vais même plus loin dans le Massai Mara où l'écosystème est déréglé. C'est même des chiffres qui sont bien plus accablants que ça, puisque je pense qu'il y a des années, pendant des fois 2-3 ans, il n'y a pas un guépardo qui survit dans le Massai Mara. Voilà, il y a une telle pression de la... on va y revenir.
Alors, quelles sont les causes, justement ?
Alors, elles sont multiples, évidemment, et ça serait difficile et prétentieux de dire que je les connais toutes, mais la principale cause, c'est la raréfaction des territoires. Hein. Je vous avais dit que le Massai Mara, c'est 1500 km. Alors, c'est vraiment très petit. Hein. Quand on connaît bien le Massai Mara, on en a vite fait le tour. Hein. Bon, évidemment, quelqu'un qui vient pour la première fois, il faut une journée pour aller d'un coin bout, une journée pour venir de l'autre. Ça semble immense. Mais à l'échelle écologique, c'est absolument rien du tout. Donc, en fait, le Massai Mara, c'est comme un espèce de petit laboratoire en Afrique aujourd'hui. C'est-à-dire une toute petite surface où il y a énormément d'animaux qui sont nés de toutes parts par les éleveurs Massai qui entrent illégalement la nuit parce qu'ils ont de plus en plus de têtes de bétail. Et les Massai se sont enrichis, en partie, c'est l'effet pervers d'ailleurs du tourisme aussi, hein, en partie grâce au tourisme, et ils ont de moins en moins de terres pour eux, et donc ils viennent empiéter, avec une certaine d'ailleurs complaisance des autorités, qui sont elles-mêmes Massai, et viennent empiéter la nuit de façon illégale, et viennent pénétrer à l'intérieur du parc. Évidemment, on imagine bien les conflits hommes-animaux, hein, les prédateurs, comme le guépard notamment, et puis le...
Qui vient manger les troupeaux des Massai, en
voilà,
fait.
Alors les petites brebis, par exemple, pour le guépard, parce que c'est pas un grand prédateur, mais les lions, par exemple, aussi viennent dévorer. C'est beaucoup plus facile d'attraper une vache que d'attraper une gazelle ou un zèbre. Et donc, ils viennent capturer des proies qui sont aussitôt empoisonnées pour décimer les troupeaux de lions.
Et donc, avec votre association, vous sensibilisez justement les populations locales ?
Alors, évidemment, c'est un des volets, d'ailleurs, qui a commencé même avant même le travail de protection directement sur le terrain. C'était l'idée, c'était que d'une part, que ce soit les Massai eux-mêmes qui prennent en charge le travail de protection, mais évidemment il fallait aussi les sensibiliser, donc on a des volets découvertes, hein. On a commencé le programme sur nos propres deniers en investissant dans un véhicule et en faisant le tour des villages et en leur disant, en amenant les gamins qui emmènent les jeunes enfants Massai dans le parc. Ça se faisait très très peu à l'époque, donc on emmenait les jeunes Massai, on allait voir des guépards, des lions. D'ailleurs c'était très drôle, j'ai une anecdote où j'ai des gamins qui voyaient des lions pour la première fois et qui pensaient que c'était un chien, ils n'en avaient jamais vu.
Et le tourisme, est-ce que ça a un impact négatif quand il est fait de façon agressive? Parce que vous êtes vous-même un acteur du tourisme.
Moi, je suis acteur du tourisme.
Vous organisez des safaris photos, mais respectueux de la nature.
Voilà. Alors, autant que faire se peut, évidemment, j'essaie d'avoir le moins d'impact possible, hein, que les clients qui viennent chez nous aient le moins d'impact possible. Alors, ça va de la pollution, de la gestion des déchets, de ne pas mettre des déchets plastiques, notamment, qui peuvent voler. Voilà. Donc, on a des choses, un protocole très, très rigoureux. Mais le problème du Kenya, d'ailleurs, entre autres, c'est qu'il a été le précurseur, hein, c'est l'inventeur du safari photo, le Kenya. À l'époque, il y a 20 ou 30 ans, il y avait des charters entiers qui déversaient des hordes de touristes. Et ça a été préjudiciable. Alors déjà pour l'image du Kenya elle-même, mais surtout, imaginez des dizaines et des dizaines de véhicules autour des animaux. Alors, ça existe moins parce que il y a eu des événements politiques. Hein, il y a moins de monde qui vient au Kenya aujourd'hui. Les touristes ont choisi d'autres destinations comme l'Afrique du Sud, comme le Botswana, la Zambie, le Zimbabwe, la Tanzanie.
Donc ça relâche un peu la pression voilà, pour toute la faune, et notamment pour les guépards.
Un petit peu, mais pour autant, certaines espèces charismatiques, comme le guépard, comme les lions, comme les léopards, subissent une pression. Alors, c'est juste des véhicules qui s'approchent un peu près. Mais quand les véhicules s'approchent trop près, eh ben, ils gênent la biologie de l'animal, ils peuvent empêcher les chasses, hein, c'est le cas pour le guépard, et on pourra y revenir un peu plus précisément, notamment pour le guépard. Une femelle qui a laissé ses petits, qui doit partir chasser, si elle rate une chasse à cause des véhicules ou de guides scrupuleux qui s'interposent et qui vont gêner la chasse, ben la femelle doit toujours aller plus loin, et pendant qu'elle laisse les petits seuls au nid, parce qu'on parle d'un nid pour les guépards, et ben les petits sont vulnérables, ils sont incapables de se mouvoir, il suffit qu'une hyène, un chacal, un python arrive, et puis il peut décimer toute la portée en quelques instants.
Et voilà comment on arrive à ce chiffre de plus de 90% des bébés guépards.
Alors évidemment, c'est une des causes. Alors il y a aussi la tradition du brûlis ancestral, alors qui est en train de s'estomper un petit peu, parce que je pense que maintenant il y a des choses qui ont été comprises. Mais vous imaginez, c'est un peu comme chez nous quand il y a des incendies. Voilà, quand on met le feu, ce qui a été pendant très longtemps la règle, et ben on anéantit pas seulement les vieilles pailles, mais aussi les serpents, les reptiles, les insectes, des oiseaux, les œufs, puis des petits guépards, des bébés animaux qui sont incapables de se mouvoir. Dans ces termes, donc on fait table rase. Moi, j'ai pu voir la différence entre 20 ans où on allumait une lampe, où on faisait un feu, il y avait des milliers d'insectes. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus rien, quoi. Il n'y a plus d'insectes. Ouais. Il y a un déséquilibre, il y a des pans entiers. Voilà, on a favorisé les herbivores et donc indirectement directement certains carnivores, mais il y a tout un pan de l'écosystème qui a été détruit.
Des questions, des réactions ? Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission.
Nous sommes en compagnie du photographe animalier Tony Crosetta, qui vit dans la réserve du Maasai Mara au Kenya et qui se mobilise pour la défense des guépards. Mais au-delà des guépards, ce sont toutes les espèces sauvages qui sont menacées aujourd'hui, notamment à cause du trafic qui prend de l'ampleur chaque année, comme nous le rappelle Charlotte Nittard de l'association Robin des Bois.
Il y a des chiffres, notamment par des organisations onusiennes, qui parlent d'à peu près 100 milliards de dollars de trafic par an d'espèces menacées. Alors c'est la faune, les éléphants, les rhinocéros, les pangolins, etc. Mais c'est aussi beaucoup de pêche illégale et d'abattage illégal de bois et trafic d'espèces végétales. Maintenant, c'est extrêmement difficile d'avoir une photographie précise de ce marché clandestin, bien entendu.
Mais il est en
pleine expansion, avec des volumes importants, avec des échanges mondiaux de plus en plus intensifs, avec des difficultés d'adapter les contrôles, c'est-à-dire que par exemple dans les ports, il y a des porte-conteneurs géants, il y a à peu près 20 millions de conteneurs en circulation sur les océans mondiaux, et bien entendu dans les ports, il n'y a pas les moyens de contrôler tout ce petit monde. Dans les aéroports, c'est aussi un problème, mais on voit bien que les mailles du filet sont assez lâches.
Et ce trafic aujourd'hui serait au quatrième rang des trafics illicites dans le monde, après la drogue, la traite des êtres humains et les armes sans doute.
Oui, c'est un trafic extrêmement important et qui est parfois fait par les mêmes personnes, c'est-à-dire que il y a un avantage, si je puis dire, à faire du trafic d'espèces menacées pour quelqu'un qui donne dans les activités illicites, parce que si vous faites prendre, vous risquez beaucoup moins que si vous trafiquer de la drogue alors que ça peut vous rapporter autant.
Comment réagissez-vous à ces propos de Charlotte Nittard, Tony Crosetta, photographiez toutes ces espèces depuis plus de 30 ans à travers le monde?
Moi, je suis un petit peu désespéré et en même temps, je tiens à dire quand même qu'il y a quand même des lueurs d'espoir. Je me souviens avoir acheté au tout début de ma carrière un livre qui était un livre signé de Pierre Pfeffer, c'était L'éléphant d'Afrique, vie et mort d'un géant. Et quand on regardait les courbes, l'éléphant devait disparaître un petit peu après les années 2000. Bon, aujourd'hui, il doit rester, je crois, entre 360 000 et 400 000 éléphants. Je reviens du Botswana où il y a des milliers d'éléphants qui se portent.
Qui est le seul pays où la population d'éléphants est en progression.
Et en train de croître, voilà. Donc voilà, il y a quand même des voyants qui sont rouges, mais il y a aussi des lueurs d'espoir. Bon, aujourd'hui, je connais personne aujourd'hui, enfin tout le monde en France ou dans mon entourage, qui ait envie, qui ait l'idée d'acheter un bijou en ivoire.
Ouais, enfin, donc, en Chine, au Vietnam, ça a toujours.
Alors évidemment, c'est en train de changer parce qu'il y a encore des choses.
La législation
durcie.
Une station durcie. Pour autant, la bataille est loin d'être, enfin la guerre est loin d'être gagnée. On a des petites batailles tous les jours. Donc voilà. Mais je suis quand même anéanti de voir évidemment que l'ampleur de ces trafics auxquels je peux assister. Alors évidemment, on va pas trafiquer, on va pas voler des bébés guépards devant les surveillants. Parce qu'évidemment, ça se passe la nuit. C'est toujours avec des gens qui sont impliqués, qui peuvent être dérangés à eux-mêmes. Hein. Des fois, ça peut arriver, ou même d'autres. On a des indices. On peut pas tout dire. On n'a pas encore de preuves. Voilà. Et bon, je fais pas un travail d'investigation non plus. Je suis pas non plus voilà. Ouais. Nous, l'idée, c'est de protéger les guépardos. Mais effectivement, je vois que ça prend du temps. Et malheureusement, la grande faune, elle n'est pas gagnante. On sait ce qui advient des éléphants et des rhinocéros. On voit de moins en moins de rhinocéros dans la réserve du Masai Mara. Dieu merci, il y en a encore. On voit plus les grands porteurs, ce qu'on appelle les gros porteurs, c'est-à-dire les éléphants qui avaient des grandes défenses aujourd'hui, qui ont été les premiers décimés, qui continuent d'être décimés. Hein. Il reste très très peu de grands porteurs aujourd'hui. Voilà, ça appauvrit le patrimoine génétique de l'éléphant. Et donc, voilà, il est vraiment urgent de faire quelque chose.
C'est vrai que selon le rapport Planète Vivante de WWF, les populations de vertébrés, poissons, oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles confondus ont chuté de 58% entre 1970 et 2012. Et si nous ne faisons rien pour inverser la tendance, ce déclin pourrait continuer à s'aggraver jusqu'à atteindre 67% d'ici 2020. On parle quand même de l'extinction de 2/3 des espèces. Alors, évidemment que là, on parle des espèces emblématiques. Il y a aussi le problème de petits insectes. Enfin, je veux dire, c'est tout un écosystème au-delà de ces grandes espèces emblématiques qui est en jeu. Parce que chacun a sa place, chacun joue son rôle.
Exactement. C'est-à-dire, à partir du moment où on fait disparaître une espèce, hein, c'est comme, je prends toujours l'image du château de cartes. Hein, château de cartes avec les proies en bas et puis une espèce de pyramide avec les carnivores en haut. Vous prenez retirer une carte du dessous, il y a tous les défis qui s'effondrent. On pourrait assister à un nouvel équilibre qui peut favoriser certaines autres espèces. Hein, le Masai Mara, tout est en déclin, sauf les hyènes. Je peux vous dire que les hyènes se portent bien. Tout le monde sait qu'il y en a beaucoup trop. C'est très compliqué de dire qu'à un moment donné, il va falloir arrêter réguler un petit peu. Alors, qui peut dire ça, hein? C'est pas très simple. Mais voilà, on sent qu'il y a un déséquilibre. Évidemment, il y a des espèces qui en pâtissent et qui peuvent disparaître à vraiment très court terme.
Bon, alors, comme vous ne pouvez pas vous mobiliser pour tout l'écosystème, vous avez choisi le guépard vous cherchez aujourd'hui quand même...
Mais le guépard indirectement nous permet de protéger l'ensemble du Masai Mara et donc dans l'ensemble des espèces. Hein.
Et donc vous cherchez des fonds quand même, on peut dire, profitons de l'antenne de RFI pour donner plus d'ampleur à votre action.
Alors l'action, il faut peut-être en parler un petit peu. Alors comment est né Cheetah Forever? Je me suis souvenu d'une anecdote quand j'ai commencé à travailler, enfin monter ma société au Kenya de tourisme, où j'avais, enfin moi avec mes guides et à deux reprises, on a sauvé une femelle guépard. Qui était endormi avec un petit, les lions s'approchaient et on a intervenu, on s'est interposé, on a fait du bruit, on a mis la voiture entre les deux et on a sauvé une femelle et un petit qui semble-t-il vit encore aujourd'hui. Ça m'a donné une idée, je dis tiens, pourquoi on ne pourrait pas donner une petite pichenette et puis autant que faire se peut, évidemment, parce que ce n'est pas très facile, essayer d'enrayer les chiffres de la mortalité qui est terrible. Il y a une femelle qui a en général entre 2 et 8 petits, peut perdre ses petits très facilement dans la période cruciale de la naissance à la période à peu près de 4, 5 ou 6 mois, tant que les petits ne sont pas vraiment très, très, très habitués à courir et à éviter la confrontation avec les grands prédateurs.
Et donc, vous avez créé cette association il y a 4 ans, parce que là, on arrive à la fin de l'émission, donc ça serait quand même important de parler de cette mobilisation financière que vous lancez aujourd'hui. Donc, vous incitez les gens à vous accompagner, à vous aider dans ces mobilisations.
Oui, alors on s'est rapproché d'une plateforme de crowdfunding qui s'appelle GoFundMe. Et voilà, on demande de l'argent. Pourquoi ? Pour avoir un véhicule supplémentaire. On en a 3 aujourd'hui. Ils nous en font un 4e. Ces véhicules nous servent à quoi ? Il faut comprendre que pour surveiller une femelle guépard avec des petits, il faut 2 véhicules, il faut 4 brigadiers, il faut 2 rangers qui surveillent en permanence jour et nuit une femelle pour éviter les confrontations avec les grands prédateurs que sont principalement les lions, les hyènes. Voilà. Juste pour vous donner un chiffre qui est quand même important, depuis notre action qui a commencé véritablement il y a 2 ans. Il y a 4 ans, on a commencé les démarches. Hein, je vous laisse imaginer les démarches administratives kenyanes, comment c'était compliqué. Et on on a sauvé 11 guépards d'eau. Alors 11 guépards d'eau, vous l'avez dit, c'est rien du tout, mais rapprochez ça au nombre des 34 guépards adultes aujourd'hui, c'est un tiers des effectifs qui a été sauvé, et on espère continuer à augmenter le nombre de guépards et puis à enrayer cette mortalité qui est terrible pour l'espèce.
Ouais, on va dire ce n'est qu'un début.
C'est que le début, on est tout à fait au début du programme, et puis j'espère qu'on pourra en reparler dans quelques temps, dans quelques années, et avec des perspectives plus alléchantes pour les guépards qui en ont besoin.
Vous serez toujours le bienvenu. Merci en tout cas d'être venu dans C'est pas du vent. Toutes vos coordonnées sont sur la page internet de l'émission. Tapez C'est pas du vent dans les moteurs de recherche. Restez sur RFI. On se retrouve juste après le flash d'info. À tout de suite.